Dans sa prédication de dimanche dernier, Daniel Salas avait précisé dans son introduction qu'il s'inscrivait dans le prolongement de ce sur quoi Pierre Marques avait prêché le dimanche encore avant. Il se trouve aujourd'hui, hasard des références bibliques, que moi-même je m'inscris dans le prolongement de l'une ou l'autre chose que Daniel a mentionné dimanche passé. Notamment, bon, vous le verrez en temps utile dans la suite, mais quand Daniel a parlé de ce double mouvement descendant et ascendant en rapport avec notre adoration du Seigneur et l'une ou l'autre chose encore. D'ailleurs, peut-être que dimanche prochain, Pierre, dans sa prédication, jugera utile de rebondir sur une chose que j'aurais dite aujourd'hui. En tout cas, Daniel donc avait cité dimanche passé un passage, un verset dans Philippiens chapitre 2, et c'est précisément ce sur quoi j'avais prévu de m'entretenir avec vous ce matin. Avant de lire le texte en question, quelques mots sur le contexte de l'église de cette ville de Philippe. Je mets une carte ici pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Dans la Méditerranée, donc au bout de la flèche rouge, là, Philippe, avec un S à la fin d'ailleurs, hein, c'est pas comme le prénom Philippe, la ville de Philippe porte un S. C'était une ville cosmopolite, tout comme il y en avait beaucoup en ce temps-là. Et l'église qui se trouvait dans cette ville de Philippe était le reflet de cette grande diversité. D'ailleurs, quand on lit dans le livre des Actes des Apôtres, à partir du chapitre 16, verset 12, quand Paul arrive dans la ville de Philippe, il est question de plusieurs personnes. Il y a par exemple une Lydie, femme d'affaires, qui était originaire d'Asie mineure. Il est question d'une esclave, il est question d'un gardien de prison, probablement peut-être même de nationalité, de citoyenneté plutôt romaine. Et puis toutes ces personnes, elles se côtoyaient dans l'église de Philippe. Avec autant de diversité, et là je viens d'évoquer qu'un échantillon certainement de la réalité de ce temps-là, c'était peut-être et probablement pas toujours évident de vivre l'unité dans les relations au sein de cette Église. Et voici ce que l'apôtre Paul dit dans, j'affiche la référence ici du texte que nous allons méditer ce matin, Philippiens chapitre 2, les versets 1 à 11 et s'ensuit là, le texte dans la traduction, une fois n'est pas coutume, la traduction du Semeur. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie parfaite, complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même, et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». C'est par ce texte que l'apôtre Paul veut encourager à vivre une unité, ou en tout cas les défis qu'il pouvait y avoir dans cette ville de Philippe après qu'il y soit lui-même allé. Ce texte qu'on peut découper en quatre bouts. D'abord, les versets 1 à 4, qui sont là en vert sur le diapo, où l'apôtre Paul décrit ce vers quoi nous sommes invités à tendre dans les relations les uns avec les autres. Il fait un certain nombre de recommandations, il parle d'affection mutuelle, de humilité, etc. Il y a aussi les versets 6 à 11, que j'ai affichés en bleu, où Paul insiste sur comment Jésus s'est dépouillé, comment Jésus s'est abaissé, a fait preuve d'humilité et jusqu'à faire don de soi. Et entre ces deux sections, on peut voir ce petit verset 5 ici, qui fait le lien entre les deux sections. « Tendez à vivre ainsi entre vous », ainsi, c'est-à-dire ce qu'il vient de dire dans les quatre premiers versets, « Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. » Et ensuite, il parle de Jésus-Christ dans les versets 6 à 11. Et ce verset 5, il fait donc cette transition entre les deux pour nous inviter à réfléchir à ce à quoi nous devons tendre et puis à regarder à Jésus qui est l'exemple à suivre pour vivre ces relations mutuelles. Et parfois, on cite les versets 6 à 11 ou même parfois même plus focalisés les versets 6 à 8 et on passe à côté de ce contexte dans lequel il a été choisi par l'apôtre Paul, ce contexte des relations les uns avec les autres. Parce que la vie de Jésus est le modèle à imiter pour nous aider à vivre de meilleures relations les uns avec les autres au sein de la famille de Dieu. Alors venons maintenant à ce texte et à la manière dont Jésus est l'exemple pour nous. Premièrement, il y aura trois grands points ce matin. Premièrement, des relations qui sont basées sur le dépouillement de soi. Des relations basées sur le dépouillement de soi. Et on le voit, Jésus s'est dépouillé au verset 7 hein, de manière à prendre, j'affiche le texte ici, de manière à prendre la condition d'un serviteur. Il a renoncé pendant un temps à ses privilèges, à sa gloire, à sa présence aux côtés du Père pour, comme dit le texte, se rendre semblable aux hommes, comme un simple homme dans son aspect. Ça signifie que Jésus s'est identifié à l'homme, il a assumé la chair, une chair qui est semblable en tout point à celle de l'être humain. Ce texte n'affirme nullement que Jésus s'est dépouillé de sa nature divine en s'incarnant dans un être humain. Pas du tout. Jésus est Dieu depuis toujours et il l'est depuis toujours. Il l'est encore au moment où nous parlons. Il l'a été aussi pendant tout ce temps de son incarnation sur la terre. Jésus est homme et Dieu au moment même où nous nous parlons et il était homme et Dieu aussi dans tout ce que nous lisons dans les évangiles, et c'est important de le dire. On parle des deux natures de Jésus, la nature humaine et la nature divine. Mais en devenant homme, Jésus, il est donc resté l'égal de Dieu, mais tout en renonçant à sa gloire pour un temps. Il s'est dépouillé. Et il nous laisse en ce sens un exemple à imiter, cet exemple du dépouillement de soi, et je nous pose la question, suis-je disposé, ai-je cette disposition de cœur à me dépouiller dans mes relations les uns avec les autres, avec mes frères et sœurs dans la foi? Je posais la question d'une autre manière, on va dire. Qu'est-ce qui me définit? Qu'est-ce qui nous définit les uns les autres? C'est une question qui est intéressante parce que dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons souvent tendance à nous définir par les valeurs qui sont prônées dans notre société aujourd'hui. Est-ce que nous nous voyons, est-ce que nous nous mesurons à l'aide de nos diplômes, de nos connaissances, de nos performances, des voyages que nous réalisons, de notre aspect, de notre allure, de notre beauté extérieure, de tous ces critères qui finalement plaisent au monde, aux gens qui nous entourent? Est-ce que nous cherchons à plaire aux autres, à faire bonne impression, Ou pour reprendre ce que l'apôtre Paul dit au verset 3, est-ce que nous recherchons à nous mettre en avant devant les autres, à rechercher notre propre gloire? Parce que si nous agissons ainsi, si nous nous définissons de cette manière-là, alors les relations que nous allons entretenir ne seront probablement pas beaucoup à l'image de l'exemple de Jésus. Ce serait considérer finalement que les personnes qui sont autour de nous, elles sont importantes selon les critères et les valeurs du monde dans lequel nous vivons. C'est en Dieu que nous trouvons notre véritable identité, notre vraie valeur. D'où la question que je pose, est-ce que je suis prêt à me dépouiller de tout l'honneur que le monde et ses valeurs m'apporteraient et à rechercher cette véritable identité dans le regard que Dieu pose sur moi? Je me souviens d'une discussion avec un frère qui me disait à propos d'une tierce personne qui fréquentait l'église dans laquelle nous étions avant. Waouh, j'étais loin d'imaginer que cette personne en question, elle avait réalisé tout ça dans sa vie. Et c'est vrai qu'elle avait réalisé beaucoup, beaucoup de choses. C'était notre doyen à l'époque, à Noisy-le-Grand, là où j'étais. Un monsieur qui avait fait beaucoup, beaucoup de choses. Plein de choses. Plein de choses. Mais quand on le fréquentait au quotidien, on ne s'en rendait même pas compte. Parce que cette personne était toute simple. Elle discutait avec les petits, elle se mettait à genoux avec les enfants, elle discutait avec tout le monde. Elle était toute simple. On avait l'impression de quelqu'un de simple, d'humble. Et Dieu honore cette simplicité, cette disposition de cœur à se dépouiller de tout ce que le monde peut valoriser et offrir comme éloge. Et on aime les éloges. Dieu aime quand on recherche plutôt notre identité en lui. Et pourtant, cette personne à qui je fais référence, elle aurait pu en étaler des choses qu'elle avait faites. Elle aurait pu en mettre, mais elle n'en faisait rien. Jésus nous laisse un exemple avec ces textes ici que je relis. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition de serviteur. Ce texte nous apprend une leçon fondamentale. Ce qui importe, et je le redis, ce n'est pas ce que nous réalisons, ce que nous faisons dans notre vie, mais c'est ce que nous sommes et à qui nous appartenons, nous, ce que nous sommes en Christ et à qui nous appartenons, nous appartenons à Christ, nous l'avons rappelé aussi dans la première partie de ce culte. Dépouillons-nous, renonçons à l'honneur qui nous vient du monde pour finalement trouver notre véritable valeur dans le regard de Dieu. Et peut-être s'il le faut, si nous avons besoin ce matin de confesser cela à Dieu, de confesser peut-être nos manquements à cet égard et de lui demander de l'aide pour nous voir comme lui nous voit, comme notre Seigneur nous voit. Donc premièrement, des relations qui sont basées sur le dépouillement de soi. Deuxièmement, des relations basées sur l'humilité. Des relations basées sur l'humilité. Jésus, voici ce que Paul en dit dans la suite du texte. Il s'abaissa lui-même. D'autres traductions que la Semeur ont, il s'humilia lui-même. Au verset 8. Jésus ne s'est pas uniquement dépouillé, mais il s'est abaissé, il s'est humilié. Et vous noterez dans le verset 7 et le verset 8, je les ai mis en bleu là toutes les deux, il s'est dépouillé lui-même, il s'est abaissé lui-même. Il y a cette insistance ici que Paul met sur le lui-même qui souligne qu'il s'agit d'un acte délibéré venant de Jésus. Un dépouillement et une humilité qui sont choisis, déterminés, voulus par Jésus. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Jésus ne pensait pas à lui-même, il pensait aux autres, à nous en premier. C'était une une attitude, une préoccupation désintéressée. Il était tourné vers les autres. Il n'a pas gardé ses privilèges pour lui-même, mais il y a renoncé pour un temps, avec le dépouillement dont on vient parler, pour se mettre au service des autres avec humilité. Et quand on parle d'humilité, ne confondons pas humilité et humiliation. L'humilité, elle est volontaire, elle est choisie. L'humiliation, elle est subie. L'humiliation, c'est ce que les Romains ont infligé à Jésus. Mais avant de recevoir cette humiliation, Jésus, lui, s'est humilié, il s'est abaissé lui-même. Et ça, c'est la différence fondamentale, il l'a fait de manière volontaire. Et en ce sens, là aussi, Jésus nous laisse cet exemple d'humilité. Et je nous pose la question, suis-je disposé à tendre à cette humilité dans mes relations avec mes frères et sœurs dans la foi ? Paul appelle les Philippiens à vivre leur relation avec humilité. Il le dit dans ce texte ici, « Ne faites donc rien, je relis au verset 3, « ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. » Lorsque nous sommes davantage à l'écoute des autres plus que de nous-mêmes, nous imitons Jésus qui plaçait les intérêts des autres avant ses propres intérêts à lui. Et le texte dit, c'est ce qui convient, au verset 5, quand on est uni à Jésus-Christ. Les uns, les autres, les autres, c'est vraiment le mot essentiel du vocabulaire de la personne qui s'efforce d'être humble comme Jésus l'a été. Apprenons à considérer les autres et leurs intérêts comme plus importants que les nôtres. Et c'est là qu'il nous faut prendre conscience que nous sommes tous importants. Nous avons tous notre rôle dans la famille de Dieu. C'est la richesse de toute cette diversité qu'il y a parmi nous ce matin, qu'il y a dans notre Église, qu'il y a dans l'Église de Dieu au sens large. C'est la richesse de cette diversité qui s'exprime par des dons, par des capacités et qui vient servir l'unité de l'Église. C'est là qu'il nous faut apprendre aussi à vivre l'affection les uns pour les autres, surtout quand il n'y a pas forcément toujours des atomes crochus. Nous édifier les uns les autres, nous aider à porter les fardeaux que nous pouvons vivre les uns les autres, d'essayer aussi d'apprendre à valoriser d'autres, à former d'autres, à encourager d'autres en les poussant en avant, à laisser la place à d'autres, etc., etc. Toutes ces choses, elles vont dans le sens de l'humilité. Remercions Dieu pour les frères et les sœurs qu'il a placés à nos côtés, pour les dons, pour les talents de ceux qui nous entourent au sein de la famille de Dieu. Ne nous regardons pas à nous-mêmes, mais regardons à ceux qui sont autour de nous, à leurs intérêts. Regardons à ce qui nous unit, le Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné pour moi, pour eux, pour nous. Deuxièmement, donc, des relations qui sont basées sur l'humilité. Et puis, troisième partie, des relations basées sur le don de soi, des relations basées sur le don de soi. Et Paul continue au verset 8 en parlant de Jésus. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Vous notez d'ailleurs une progression. D'abord le dépouillement, puis l'humilité et maintenant le don de soi. Jusqu'à sa mort sur la croix. Jésus n'aurait jamais pu se donner à la croix s'il ne s'était pas d'abord dépouillé et humilié, abaissé. En prenant la condition de serviteur dont il est question ici dans ce verset 7, Jésus s'identifie à la condition de la personne qui était tout en bas dans la société romaine à l'époque. l'esclave, tout en bas. D'ailleurs, dans le texte original en grec, c'est le même mot qui permet de désigner ici donc le serviteur, la condition de serviteur, que pour décrire la condition d'esclave. C'était le même mot. Même mot qu'on a quand Paul écrit la lettre « Paul, serviteur de Jésus-Christ ». Serviteur, ou parfois des traductions qui traduisent par « esclave », parce que c'est le même mot pour dire « serviteur » et « esclave ». C'est la seule fois dans tout le Nouveau Testament que le mot « serviteur », le mot grec qui est derrière le texte ici, « serviteur » est utilisé pour désigner Jésus-Christ. Et donc c'est très fort l'utilisation que Paul fait de ce mot ici pour désigner Jésus, c'est très fort. Le don de soi qu'incarne Jésus ne connaît pas de limite. Jésus est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix qui constitue le point culminant, extrême que Jésus ait vécu. Et il n'existait à l'époque rien de plus humiliant que la crucifixion. Cette croix qui représentait pour les Romains la peine de mort la plus méprisante, la plus dégoûtante, pour ceux qui étaient tout en bas de la société de l'époque. Et puis pour les Juifs, la croix était le signe de la malédiction qui venait de Dieu. Jésus a donc été jusqu'au dernier degré de la honte au sein de l'humanité, à l'époque où il a vécu il y a quelques 2000 ans. On a ici l'expression suprême du don de soi. Et là encore, Jésus nous laisse un exemple à suivre. Suis-je disposé à vivre le don de soi dans mes relations avec mes frères et mes sœurs dans la foi ? Jésus a enseigné à ses disciples ce commandement, Jean 15, versets 12 et 13, « Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Pour ses amis, c'est-à-dire pour ceux que l'on aime. Et puis l'apôtre Jean le dit dans une section où il expose que l'amour est l'une des caractéristiques, sinon la caractéristique la plus importante pour caractériser le chrétien, dans 1 Jean 3,16. « Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. » C'est fort quand même. C'est fort. L'amour est plus qu'un simple sentiment. L'amour est quelque chose qui devrait se traduire en actes concrets pour notre prochain. L'amour se donne sans compter. C'est un acte concret qui consisterait, dont l'acte concret le plus suprême consisterait à aller jusqu'à donner notre vie pour notre frère, notre sœur dans la foi. Comme Jésus nous a aimés et s'est donné pour nous. Alors d'ici à donner notre vie et pour nos frères et sœurs dans la foi, bien sûr ça n'arrive pas tous les matins, et il y a évidemment tout un éventail de possibilités de vivre ce don de soi, de vivre cet éventail de services que nous pouvons exercer les uns avec les autres. J'en évoquais tout à l'heure dans cette petite liste les uns les autres que j'ai pu dresser, mais il y aurait certainement beaucoup de choses à dire. J'aimerais tenter simplement trois courtes pistes d'application qui sont bien sûr loin d'être exhaustives d'une part, mais qui mériteraient chacune d'en parler beaucoup plus que ce que je vais en dire maintenant. Une première piste d'application, c'est la prière mutuelle. La prière mutuelle. Prions les uns pour les autres. Nous ne pourrons probablement pas prier chaque semaine pour toutes les personnes de l'Église. Peut-être certains le font. Mais peut-être que la plus grande partie d'entre nous aura beaucoup de difficultés à faire cela. Et pourquoi faudrait-il faire cela d'ailleurs? Et pourquoi chaque semaine et pas chaque mois? Ou chaque année? Par contre, pourquoi ne pas essayer de prier plus particulièrement chaque semaine pour deux ou trois personnes de notre Église. Spécifiquement, particulièrement. Un peu comme, vous vous en souvenez, si vous étiez présent au dernier week-end d'Église à La Source, où nous avions invité à prier pour une personne dont on avait tiré au sort le nom dans une petite boîte, et il y avait tous les participants qui étaient là. On avait prié pour une personne en particulier. Est-ce que peut-être vous priez encore pour cette personne? Est-ce que vous saviez quel prénom vous avez tiré au sort ce jour-là? Ce pourrait être des personnes avec qui on a échangé quelques mots autour du café, là, le dimanche matin, ou sur le parking avant de repartir pour notre semaine. J'évoque le dimanche matin parce que c'est essentiellement là que nous nous voyons. Après, il y a les rencontres de quartier, bien sûr, les études bibliques, les réunions de prière. Bon, il y a d'autres moments où on peut se voir, bien sûr, dans la semaine, dans les équipes de ménage aussi, qui viennent et qui se retrouvent, qui partagent un moment ensemble. Mais globalement, c'est quand même le dimanche matin qu'on se voit quasiment tous, ou qu'on peut avoir des nouvelles des uns et des autres. Parfois, nous disons « je vais prier pour toi ». Mais est-ce que nous le faisons vraiment? Est-ce que nous le faisons vraiment? Alors, engageons-nous à prier pour cette personne ou ces deux, trois personnes chaque semaine. Et puis le dimanche prochain, on va, dans le cœur à cœur avec Dieu, dire « je vais prier cette nouvelle semaine pour ces deux autres personnes » et ainsi de suite. Et peut-être qu'au bout d'une année, on aura finalement fait le tour de toute l'Église. On aura prié pour tous nos frères et sœurs. Il vaut mieux prier pour deux, trois personnes chaque semaine que de mettre la barre trop haute et finalement se décourager et ne plus prier du tout. Il vaut mieux en faire moins, mais peut-être le faire mieux. Surtout quand on parle de la prière ou quand on parle aussi de la lecture de la Bible. Il y a des choses qui valent dans ce que je viens de dire aussi pour notre lecture de la parole de Dieu. Donc la prière mutuelle, prions les uns pour les autres. Une deuxième piste d'application, des nouvelles mutuelles. Est-ce que nous connaissons ce que nous vivons les uns les autres dans notre quotidien? Est-ce que nous savons les difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre travail, dans nos études, dans les défis que nous avons avec notre voisinage ou dans le climat familial que nous avons? Est-ce que nous savons dire ce qu'un tel, un tel vit? Partageons des nouvelles le dimanche. Ça demande davantage de temps que simplement la salutation « Ah, salut, ça va, tu vas bien? Ça s'est bien passé ta semaine ?»« Ouais, écoute, c'était une bonne semaine, il a fait beau, bon, mardi, c'était pas génial par contre. Et toi, ça va ?»« Ouais, écoute, ça va bien. Bonne semaine !» Et on fait ça tellement souvent. Est-ce qu'on apprend à connaître les défis de cette personne? Par ça. Je caricature un peu, peut-être. Quoique. Prenons du temps, plus particulièrement avec une, deux, trois personnes, le dimanche. Autour du café. Ou même sur le parking, et je suis tellement heureux quand je vois des personnes qui tardent à partir et on sent que ça discute, et c'est bien, et j'encourage cela. Parce que bien sûr, la caricature que j'ai faite tout à l'heure, c'est pas ce que nous vivons tous, mais il y a aussi ces moments où on discute un peu plus, on creuse un peu plus, et c'est bien, et je vous encourage à le faire, à continuer. Échangeons des nouvelles, échangeons aussi des messages pendant la semaine. J'ai pensé à toi aujourd'hui. Comment ça s'est passé, vous faites cet examen? Tu m'avais dit que tu avais un examen mardi matin, mais je prends des nouvelles. Ça montre à la personne que vous l'avez écoutée, puis elle va elle-même ressentir, il s'est souvenu de ce que je lui ai dit. Et ça m'amène à la troisième piste d'application. L'écoute mutuelle. L'écoute mutuelle. Est-ce que nous savons écouter notre frère, notre sœur en Christ? Parce que parfois nous posons des questions, mais force est de constater que nous n'écoutons pas vraiment la réponse. Ou parfois même nous oublions la réponse qu'on nous a donnée. On salue quelqu'un, bonjour, vous vous appelez, oui, moi c'est machin. Mais 10 minutes après, on ne sait même plus comment la personne s'appelle. Est-ce qu'on l'a vraiment écoutée? Est-ce qu'on était là avec elle? Apprenons à écouter la personne avec qui nous nous entretenons. Apprenons aussi, dans cette écoute, à laisser de la place à l'autre dans le dialogue. Parce que vous savez, il y a des personnes, beaucoup de personnes, qui pour s'exprimer, pour partager quelque chose, et en particulier quand il s'agit de partager quelque chose de difficile, elles ont besoin de temps. Ça ne sort pas comme ça. Il ne faut pas s'attendre à ce que quelqu'un nous partage un gros dossier comme ça en 3 secondes. Ça demande du temps. Ça demande que la personne se sente en confiance. Ça demande un investissement de notre part. Et c'est pourquoi apprenons à écouter l'autre, à lui laisser de la place dans le dialogue. Donc, la prière mutuelle, des nouvelles qu'on se partage mutuellement, et l'écoute mutuelle. Mes chers frères et sœurs, développer nos relations, c'est un défi. C'est un défi qui nous engage nous-mêmes à expérimenter, comme on l'a vu ce matin, ce dépouillement, cette humilité, et même jusqu'à ce don de soi. Prenons exemple sur Jésus et sur les dispositions de son cœur, telles qu'elles sont révélées dans ce texte, et puis plus largement dans la parole de Dieu, dans les évangiles. Quand on voit Jésus dans les interactions qu'il a avec les gens autour de lui, ses disciples, et puis les personnes qu'il rencontrait sur les chemins de Galilée, de Judée et autres, et même la Samarie. Loin de toute vaine gloire, Jésus a recherché la gloire de Dieu son Père. Et lui, il s'est humilié, il s'est abaissé, et avant ça, pardon, il s'est même dépouillé, il s'est abaissé, et jusqu'à donner sa vie pour nous. Les dispositions du cœur, c'est quelque chose qui se cultive. Et je nous encourage à contempler, à méditer l'exemple de Jésus qui est dépeint dans ce passage de Philippiens chapitre 2. Que nous puissions, jour après jour, aller un peu plus loin dans la concrétisation de cette disposition du cœur qui vise un amour qui se donne, un amour qui se met au service de Dieu et de nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Parce que vous savez, c'est aussi cela, grandir à la ressemblance de Jésus-Christ. Et c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Alors je vous invite maintenant, pour faire écho à ce que nous venons d'entendre, à un simple temps de silence, que je conclurai par un amen, pour repenser à ce que nous avons entendu ce matin, pour peut-être remercier aussi notre Dieu pour les frères et sœurs que nous avons dans la famille de Dieu, pour peut-être confesser tel ou tel manquement et demander à Dieu son aide pour développer cet amour qui se met au service. Faisons-le dans le secret de notre cœur. Voilà, un temps de silence où nous sommes chacun devant notre Dieu pour faire résonner tout cela.
Amen.